Bonjour, merci d'être venus aussi nombreux pour la rencontre de ce soir et merci aux deux directeurs d'ouvrage, Philippe Sansonnetier et Patrick Boucheron, d'être venus pour cette dernière rencontre de l'année de Livre en dialogue sur l'ouvrage La ville du futur. Donc ensuite, le cycle reprendra en septembre et donc là, on finit l'année en beauté avec cet ouvrage paru aux éditions du Collège de France. Alors je voudrais dire avant de laisser la parole, deux mots peut-être de bienvenue au sein de la Fondation Maison des Sciences de l'Homme, qui, depuis sa fondation en 1963 par Fernand Braudel, a deux missions principales. Alors, la première mission, c'est le soutien aux activités de recherche à travers des programmes scientifiques, de la mobilité internationale, des coopérations et de l'hébergement de chercheurs à la Maison Sugère. Et une activité de diffusion de la connaissance dans la société à travers des événements comme celui de ce soir ou des événements au comptoir au premier étage, une maison d'édition, les éditions de la Maison des Sciences de l'Homme, Canalu, qui est la plateforme audiovisuelle de l'enseignement supérieur et de la recherche, et FMSH Diffusion-Distribution, qui est l'acteur principal de diffusion en librairie et de distribution du livre académique en France et qui travaille avec 70 maisons d'édition à peu près, qui sont des presses académiques, les éditions du Collège de France notamment, ENS Éditions ou des presses universitaires, pour rendre visible auprès des libraires et des lecteurs le travail des chercheurs à travers ces ouvrages. Donc, si je résume un petit peu ce que défend et ce que fait la FMSH, il s'agit d'animer et de rendre visible le travail des chercheurs, le travail de recherche, dans une ouverture disciplinaire très large en sciences humaines et sociales, et de nourrir le débat public pour éclairer les citoyens. Donc c'est une grande ambition et qu'on est très heureux de servir ici. Et j'ai trouvé ça intéressant que l'ouvrage dont on va parler ce soir, finalement, s'inscrive vraiment dans cette démarche-là, puisque c'est un ouvrage qui croise profondément les disciplines, qui s'inscrit dans une perspective internationale et dans un vrai dialogue avec la société. C'est en quatrième de couverture, vous annoncez que ce livre pose les jalons d'une réflexion collective qui sont pour ces défis qui doivent être relevés. Donc voilà, donc je pense qu'une soirée comme celle-ci, avec votre présentation, avec les débats qui suivront après, puisque vous aurez un moment assez long de questions, pourra être très utile pour nourrir cette réflexion que vous ouvrez avec ce livre et pour nourrir le débat. Donc je vous remercie, je vous cède la parole et je vous souhaite une très bonne rencontre. Merci à tous et à toutes.
Merci beaucoup pour cette introduction. Je suis Mélanie Chalandon, je travaille à France Culture et j'ai le plaisir d'animer cette rencontre ce soir. Donc bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette rencontre organisée par la Fondation Maison des Sciences de l'Homme dans le cadre du cycle Livre en dialogue. Nous sommes ici ce soir réunis pour parler de La ville du futur, qui est un ouvrage qui est édité par les éditions du Collège de France, dirigé par Patrick Boucheron et Philippe Sansonetti avec la collaboration de Benjamin Campeche. Voilà pour le livre. Et puis je crois que on le redira tout à l'heure, mais il est en vente après la rencontre dans cette direction. Voilà. Alors, à quel défi climatique, sanitaire, démographique, économique et politique, les villes sont-elles d'ores et déjà confrontées? En quoi les réponses qu'elles apporteront ou n'apporteront pas à ces défis déterminent leur avenir? Dans un monde où le futur de l'humanité est a priori urbain, puisqu'on estime que 7 personnes sur 10 vivront en ville à l'horizon 2050, et alors que les métropoles sont particulièrement exposées aux risques climatiques et environnementaux, eh bien, il est urgent de penser des réponses en matière d'adaptation et de résilience des villes. Et cette réflexion que vous avez portée collectivement, eh bien, vous nous le dites, cette réflexion devra renoncer aux utopies technicistes qui voudraient faire émerger du désert, par exemple, des villes nouvelles, intelligentes, ultra connectées, sans véritablement tenir compte des contraintes du réel. Cette réflexion, elle devra également penser les villes dans leur diversité, les villes anciennes, les villes en construction, les villes du nord, les villes du sud. Et puis elle devra enfin ne pas perdre de vue les enjeux du vivre ensemble, des inégalités, des solidarités. Voilà quelques-unes des lignes de réflexion qu'on va développer avec les deux directeurs de l'ouvrage ce soir. Philippe Sansonetti, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes microbiologiste, professeur émérite au Collège de France. Vous avez été titulaire de la chaire microbiologie et maladies infectieuses de 2008 à 2020, également à l'Institut Pasteur. Et Patrick Boucheron, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien, professeur au Collège de France depuis 2015, titulaire de la chaire Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, 13e-16e siècle. Et une de mes premières questions porte sur le choix que vous avez fait de réunir dans ce livre une douzaine de contributions d'auteurs et d'autrices qui sont tous issus de différentes disciplines. Il y a des historiens, des géographes, des urbanistes, des anthropologues, des entomologistes, des microbiologistes, des ingénieurs. Car c'est aussi un parti pris fort de ce livre, une approche globale, une approche pluridisciplinaire et résolument confiante dans la science. Philippe Sansonetti, pourquoi ce choix de l'approche multidisciplinaire? Pourquoi est-ce qu'il vous a paru nécessaire que la réflexion sur l'avenir de l'urbain ne soit pas nourrie que par des urbanistes?
Je ne m'attendais pas à la dernière partie de la question. L'idée est simple d'ailleurs, elle est même personnelle, mais je pense que Patrick le partage, c'est que ma carrière scientifique, je l'ai faite sur la multidisciplinarité. On ne fait pas de microbiologie, de maladies infectieuses, épidémiques, sans s'intéresser à la microbiologie, la biologie cellulaire, la biologie du développement, l'immunologie. Donc j'ai toujours été habitué, je me suis même moi-même construit sur le plan scientifique, sur la base de la multidisciplinarité. Et j'en ai perçu rapidement les avantages, parce que c'est souvent à l'interface des disciplines qu'on commence à avoir jaillir des nouvelles, des éléments pour lesquels on va pouvoir construire quelque chose qui va tenir un peu de l'innovation quand même. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire et c'est la seule façon de procéder lorsqu'on est en face d'un sujet aussi complexe que la ville, en particulier la ville du futur. C'est pas quelque chose qui peut se traiter sur un mode unidisciplinaire, il n'y a pas de solution et donc ça a créé cette espèce de vision très rapidement, un petit peu, je dis toujours, kaléidoscopique, c'est-à-dire d'essayer d'explorer chacune des facettes et de voir comment ces facettes peuvent s'articuler les unes entre les autres. On l'a fait sur la base d'un symposium à la fin de 2023, qui était un peu expérimental, hein, Patrick, et on a été tellement contents à la fois de cette articulation qui a plutôt bien marché, et elle a bien marché pourquoi? Essentiellement parce qu'il y avait la qualité des intervenants qui participaient. On s'est dit, c'est pas possible de pas tirer de ça un ouvrage, et c'est comme ça qu'est née la ville du futur. Avec un petit peu de travail en amont, c'est l'occasion de mentionner Benjamin Campec, qui est notre troisième larron dans la conception de ce livre, d'avoir des paragraphes, des chapitres assez courts, très synthétiques, mais qui véhiculent bien clairement, je pense, ou j'espère en tout cas, les messages qu'on a voulu faire passer, quelques illustrations, quelques éléments de référence bibliographique. Voilà. Tout ça s'est mis ensemble, il y avait plus que 14, plus que 12, mais bon, ça s'est décanté comme ça et je pense qu'on a couvert pas mal de choses. Donc voilà, il y a une histoire naturelle de cet ouvrage qui n'est pas finalement exceptionnelissime, mais dont on est heureux du fait quand même de l'enthousiasme des uns et des autres, et puis du succès justement de cette approche multidisciplinaire.
Patrick Boucheron, je vais vous poser la même question sur l'approche multidisciplinaire et puis tout de suite pour aller dans un second temps, vous poser la question de pourquoi en fin 2023, quand a lieu ce colloque au Collège de France, qu'est-ce qui à ce moment-là vous fait penser qu'il y a une urgence à penser l'urbain, à penser le futur de l'urbain?
Je suis historien de la ville d'origine, ça se voit peut-être pas tant que ça, ça se verra à partir de l'année prochaine dans mon enseignement au Collège de France, mais c'est vrai que j'ai enseigné d'autres choses et depuis quelques années, je pense que l'urbain peut être un carrefour de toutes, non seulement les disciplines, comme le dit si bien Philippe, et puis moi j'ai aussi travaillé en histoire des épidémies, on a déjà travaillé ensemble sur la peste, mais au-delà, d'une certaine manière, comme carrefour, non seulement des savoirs, parce que les savoirs urbains, par définition, sont interdisciplinaires, mais de leur actualisation par, je dirais, une forme d'urgence, avez-vous dit l'une et l'autre, et aussi peut-être de hantise par rapport aux contemporains. Dire simplement que, de toute façon, par définition et par vocation, le Collège de France doit adopter sur tous les sujets, c'est son objectif, une dimension et une conception et une intelligence collective et interdisciplinaire, et que ce livre-là s'intègre dans un programme propre au collège qui réunit quelques professeurs, qui s'appelle Avenir commun durable. Et Avenir commun durable, comme son nom l'indique, réfléchit à la question effectivement de la durabilité de nos modèles de développement sur le plan économique, écologique, environnemental, mais aussi social et culturel, également interdisciplinaire, et a comme vocation de s'adresser à la société. Là encore, c'est une évidence, puisque le Collège de France doit mettre la recherche en train de se faire devant la société, mais là davantage encore, pas simplement pour chercher des mécènes, mais pour engager au fond à une prise de conscience. Voilà. Et notre rencontre s'appelle Les livres en débat, et d'une certaine manière, on peut dire que ce colloque, il est déjà mis en débat par la publication que constitue justement le podcast, etc. C'est déjà une forme de publication. Et comme le dit Philippe, ce n'est pas si évident de penser qu'aujourd'hui, avec les moyens modernes de diffusion, tous les colloques méritent au fond de passer à la forme livre. S'ils le méritent, c'est d'abord parce qu'ils doivent être transformés, et transformés pour faire du livre justement une matière à débat. Aujourd'hui, dans notre société, dans notre espace public, la forme livre, et j'y tiens parce que en fait, moi je suis un défenseur de la cause du livre, la forme livre reste toujours le meilleur vecteur d'un débat public. Mais il faut inventer quelque chose. Et là, il faut rendre hommage aux éditions du Collège de France, à ces éditrices qui ont fait assaut d'inventivité et de créativité pour trouver une unité visuelle, éditoriale, narrative à un livre qui, comme tu le dis, Philippe, par son élan, par son allant, par son unité et la diversité de ses approches, doit proposer, je dirais, un panorama assez simple, convaincant et nuancé de ce qu'on doit attendre d'une ville du futur.
On sent bien à le lire l'enjeu qui a été le fait de réunir tant de contributions sur un sujet très large qu'est la question urbaine. Philippe Sansonetti, vous m'avez dit en préparant cette intervention que vous avez voulu un livre raisonnable. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Parce que c'est quand même une intention forte de l'ouvrage, un livre accessible mais un livre raisonnable aussi.
Oui, je savais que vous alliez me poser cette question. Oui, pour moi, c'est important, la raison, et en particulier savoir raison garder. On est dans une période extrêmement complexe où on voit bien que les modifications du monde se font à un rythme effréné. Et il y a une certaine compétition dans la réflexion sur les sujets clés. La ville du futur en est un. La ville du futur en face des changements climatiques et de ces menaces. La ville du futur en face de, au fond, la construction de sa résilience, son adaptation, comme vous l'avez dit au début. Et on voit bien qu'il y a des réponses qui ne sont pas toujours très, très cohérentes par rapport à ça. Et on voit bien que beaucoup des réponses tiennent un peu de l'utopie. Donc ce que j'appelle raisonnable, c'est quelque chose qui réponde à la raison, dans sa définition philosophique, quelque chose qui ne touche pas à l'absurdité de façon à ne pas effrayer et au fond se dire que c'est beau mais c'est impossible. Et effectivement, les utopies urbaines dont vous avez parlé, c'est tout ce qu'il faut éviter, parce que en plus, c'est ce qu'on met dans l'introduction, ce sont des utopies du passé auxquelles on est en train de réfléchir dans ces cas-là. Donc ce que j'ai plaît raisonnable, c'est de se dire qu'au fond, alors prenons l'exemple de la ville de Paris. La ville de Paris, dans 100 ans, elle sera très très peu différente de ce qu'elle est aujourd'hui, au fond. Simplement, elle sera adaptée, on l'espère en tout cas, au changement climatique, justement, l'augmentation des températures, aux excès des précipitations, tout ce qu'on expérimente, y compris hier soir, et on voit bien à quel point ça veut devenir assez rapidement dramatique. Donc, au fond, c'est ça la ville du futur, et c'est ça que j'ai appelé finalement une approche raisonnable de la question. Alors, est-ce trop raisonnable? C'est au fond les lecteurs qui pourront le dire, s'ils veulent des approches plus, je dirais, agressives, en tout cas, et ça peut être le cas parfois, autant parler. Je pense que maintenant, c'est un débat qui se doit d'être sur la place publique, parce que c'est notre ville, c'est celle de nos enfants, de nos petits-enfants. Il faut véritablement la réfléchir dès maintenant. Et ce livre, au fond, modestement, il apporte des éléments pour cette réflexion. Ceci dit, quand on regarde cette ville, et qu'on va dans le passé, pas grand-chose, comme je disais tout à l'heure, a changé. Il y a eu ce grand maniement urbain de la période haussmannienne, qui a été fait au triple galop d'ailleurs, et sans trop de réflexion sur l'impact que ça avait sur les populations, et ça a eu des impacts négatifs socialement. Mais depuis, au fond, la ville n'a pas tant changé que cela, et probablement ne changera pas plus. Ce qui a été majeur, et on y reviendra peut-être, c'est les aspects de salubrité, les aspects sanitaires qui ont remodelé la ville de Paris et d'autres villes, hein, Londres et d'autres, bien entendu.
La ville du futur ne sera pas fondamentalement différente de celle d'aujourd'hui. C'est une des idées fortes qu'on trouve dans cet ouvrage. Patrick Boucheron, vous écrivez que la ville du futur est de moins en moins futuriste. Qu'est-ce à dire ? Et qu'est-ce qu'une ville futuriste ? Et surtout, pourquoi l'idée d'une ville futuriste serait dépassée ?
Elle a fait long feu, en tout cas. Pour la raison que dit fort bien Philippe, c'est que nous savons maintenant que la ville du futur, c'est la nôtre, pourvu qu'on en prenne soin et que de toute façon, elle est déjà construite. On ne va pas construire autre chose que le cadre de vie dans lequel nous sommes. Sauf, là, je parle effectivement de l'Europe et cette raison gardée dont parle Philippe Sansonetti, c'est une raison qui est pratique, mais c'est aussi une raison qui est globale. Ça, c'est très important aussi à le dire. Évidemment, là, on peut parler de Paris, de Londres, et j'ai aussi en parlé, je suis un historien de l'Europe, mais ce qui est important aussi dans cette problématique globale, c'est de considérer que bientôt, par exemple avec le réchauffement climatique, nos villes, de ce qu'on appelait encore de mon temps quand j'étais sur les bancs de l'école, le climat tempéré, et dont on voit bien qu'il est de moins en moins tempéré, nos villes vont être confrontées à des problèmes non seulement climatiques et environnementaux, mais également sanitaires et microbiologiques, qui sont celles des villes africaines, le palu, la dengue, etc. Et dans ce cas-là, effectivement, les bonnes idées des urbanistes, végétaliser, c'est une bonne idée, mais on apprend effectivement, tu le diras mieux que moi dans le livre, que végétaliser la ville, ça suppose, ça implique aussi d'y créer des niches écologiques infectieuses, voilà, des tiques, des moustiques. On va inversement dire, et là encore c'est contre-intuitif, tout le monde est contre le béton. Bien sûr, sauf que effectivement, il y a dans le livre une contribution d'Armel Choplin qui explique ce que ça veut dire au fond que bétonner une ville en Afrique et comment concrètement les usages sociaux font du béton, eh bien encore aujourd'hui un vecteur de modernité. Alors nous, effectivement, depuis nos villes riches et pas si peuplées que ça, d'une certaine manière, au regard de l'urbanité globale, on peut rêver à des matériaux durables, à du bois, à de la terre, mais dans la plupart des pays du monde, s'enrichir, c'est construire en béton. Donc il faut tenir compte du monde tel qu'il est. C'est ça, être raisonnable aussi, c'est la raison. Et donc, la raison pratique. Et de ce point de vue-là, bah oui, nous savons aujourd'hui que l'utopie, dites-vous, est une solution du réel, du passé. Vous savez, je suis un historien de la bascule, en fait, entre la fin du Moyen-Âge, le moment où on tente de rendre raison au réel urbain par la construction de villes qui sont des villes raisonnables, pourrais-tu dire, en tout cas régies par des traités d'architecture, celui d'Alberti, celui du Filaret, et puis la première utopie moderne, c'est celle de Thomas More en 1512, et l'utopie naît du désespoir à transformer le réel. Or, nous n'avons pas totalement désespéré dans notre capacité à transformer le réel. Et c'est pour cela, effectivement, que sans être, au fond, fasciné par l'utopie techniciste, On essaie de comprendre ce qui est possible malgré tout, aujourd'hui est soutenable.
Alors je vais me faire un instant l'avocate du diable de la ville futuriste et techniciste en prenant cet exemple auquel vous vous référez dans l'ouvrage, qui est cette ville qui s'appelle, alors il n'est pas encore construite, qui s'appelle Neom, qu'on appelle aussi The Line, qui est un projet saoudien, une ville décidée, imaginée par le prince héritier Mohamed Ben Salman d'Arabie Saoudite, et qui est une ville qui est conçue comme une ligne de 170 kilomètres, 200 mètres de large, 500 mètres de haut, avec des façades extérieures couvertes de miroirs. À l'intérieur, pas de voiture, mais un train à grande vitesse, une ville du quart d'heure où on pourrait avoir accès à des services à moins de 20 minutes de chez soi, une ville tout en hauteur avec des balcons, des toits végétalisés et des jardins en hauteur. C'est une ville qui serait... qui fonctionnerait à 100% avec l'énergie renouvelable. Alors voilà, j'égrène les éléments de langage et du marketing, parce que pour l'instant, cette ville est avant tout un clip vidéo. Dans le réel, ce sont des chantiers et qui rencontrent d'ailleurs beaucoup de soucis. Mais tout ça pour vous demander, pourquoi est-ce qu'une ville du quart d'heure à 100% en énergie renouvelable, où il y aurait juste un train et pas de voiture, pourquoi cette ville ne représenterait pas un futur désirable ?
Je pense qu'on pourrait intervenir tous les deux là-dessus. C'est une utopie, parce que la durabilité d'un tel objet, elle est loin d'être garantie. Et puis, à qui a-t-on demandé l'avis pour faire ça ? On a demandé l'avis d'un émir visionnaire et d'architecte probablement ravi d'acquérir une visibilité, sans parler des aspects financiers de la chose. Mais au fond, c'est une utopie quand même.
Qu'elle était en plein désert, pardon.
Oui, voilà, avec un peu de bon sens, dans un désert, avec des températures d'été maintenant au-dessus de 60 degrés, avec des... rien que le bon sens, rien que la raison, en tout cas c'est mon opinion, vous dit que c'est absurde. La durabilité d'un tel objet n'est pas du tout garantie. Et puis encore une fois, elle n'est pas par essence venue du peuple, des gens qui vont peupler cette ville. On ne leur a pas demandé leur avis. On va les parquer sur des balcons. Et puis je veux dire, sur le plan social, on est loin de ce modèle-là, mais ce que j'ai vu au fur et à mesure des années, Singapour se transformer. Singapour est devenu quand même largement une ville de riches, voire d'extra-riches, où la population, la classe moyenne, moyenne à pauvre, il y a beaucoup d'immigrés aussi, indiens, chinois, se retrouvent parqués à l'extérieur de la ville. Donc, on sait bien ce que c'est, ces choses-là. Ça ne se termine pas par une ville pour tout le monde.
Patrick Boucheron ?
Moi, on m'a demandé, effectivement, comme historien, ce qui peut paraître singulier, de parler de la ville du futur. Et j'ai donc tenté de convoquer ce que je sais ou ce que je crois savoir des passés de la ville. Et évidemment, en transparence de ces projets futuristes, se discerne une sorte de passé antérieur, c'est-à-dire que c'est ce qu'on imaginait du futur avant, voire bien avant. On y reconnaît assez aisément, c'est ce que dit Philippe Sansonetti, une des constantes, au fond, de l'urbanisme depuis, là encore une fois, le XVe siècle, c'est qu'elle esthétise la ségrégation urbaine. Voilà. C'est que, au fond, un architecte, et surtout un architecte qui va travailler pour des commanditaires autoritaires et riches, exagère, au fond, cette tendance, qui n'a rien de naturel, qui est une tendance sociale, à la ségrégation urbaine. Et ça, effectivement, c'est des exemples qui sont des exemples critiques et cliniques, d'une certaine manière. Et ce qu'on peut voir et comprendre, c'est comment l'histoire peut nous fournir plus et mieux que de ces modèles de puissance, parce que ça, au fond, moi, je, franchement, comme médiéviste ou même comme spécialiste de la Renaissance italienne, je ne suis pas si dépaysé que ça de voir des architectes émerveillés par des commanditaires. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse du point de vue effectivement démocratique. Et Philippe l'a dit, et c'est un fil rouge aussi de cet ouvrage, c'est que cette ville du futur, elle est durable et soutenable si elle est partagée, si elle est, c'est avenir commun durable. Et donc la question, c'est de créer du commun au-delà de l'utopie techniciste, même si on le sait bien aujourd'hui, la pensée écologique, et y compris l'écologie politique, il suffit de lire Pierre Charbonnier par exemple, montre qu'on ne peut plus penser, disons, la sobriété séparée de la substituabilité. C'est-à-dire que bien sûr qu'il faut imaginer des solutions alternatives, des énergies renouvelables, etc. Et il y a peut-être des solutions à trouver, on le croit quand même, de ce point de vue-là. C'est quand même tout le travail de l'avenir commun durable, d'essayer de suivre ces pistes. Mais pour moi, l'intérêt, effectivement, d'y associer des sciences humaines et sociales et des humanités, c'est de maintenir, au fond, les garde-fous à toute illusion scientiste. Voilà. Mais on voit bien que, avec des scientifiques qui parcourent le monde et qui ont, je dirais, même le souci du monde, comme Philippe, qui a passé son temps en Afrique, ils n'ont pas besoin de nous, ils le savent très bien. Mais en revanche, certains urbanistes, certains ingénieurs, certains financiers, certains programmateurs, non, peut-être pas.
Et l'intérêt du livre, c'est aussi d'aller demander à l'histoire et à l'historien ce que nous enseignent les politiques. Alors, je ne sais pas c'est évidemment un néologisme que de parler de politique de la ville appliquée au Moyen-Âge ou à la Renaissance, mais en tous les cas, quand on lit vos contributions, la vôtre Patrick Boucheron et puis celle de Thomas Leroux, on apprend que l'histoire de la prise en considération des risques à l'époque de pollution puis climatique n'est pas nouvelle, n'est pas linéaire. Qu'est-ce qu'on peut retenir, qu'est-ce qu'on peut transmettre là ce soir au public l'essence de ce que nous apprend, par exemple, la régulation du risque environnemental dans les villes au Moyen-Âge?
Oui, au Moyen-Âge, on avait déjà un souci et une conscience de la responsabilité humaine dans, par exemple, la répartition des activités industrielles en amont et en aval du fleuve. On savait que les produits polluants ne devaient pas être en amont. Enfin, il y avait des principes élémentaires, au fond, de rationalisation et d'assainissement qui, d'une certaine manière, ne font pas pour autant de la ville pré-industrielle un paradis perdu de la responsabilité écologique. Thomas Leroux montre que, évidemment, l'histoire des pollutions industrielles connaît un boom foudroyant au XIXe siècle et que là, il y a effectivement un forçage, diraient les climatologues, c'est-à-dire un moment où véritablement un seuil de soutenabilité est très largement dépassé et que toutes ces villes sont en déséquilibre. Donc ça, effectivement, l'histoire des pollutions industrielles, il ne s'agit pas de dire tout a toujours déjà existé au XIIIe siècle déjà, une ville drapante. Non, non, il y a des effets de seuil, évidemment. Mais c'est important, comme vous le dites, de rappeler que nous ne sommes pas les premiers à avoir conscience de la fragilité de notre environnement et que la conscience, justement, de, par exemple, du changement climatique, ça, c'est effectivement Jarige et Fressoz qui l'ont montré, Jean-Baptiste Fressoz, elle date effectivement de la fin du XVIIIe siècle. Donc, on a une longue histoire déjà de cette prise de conscience, ce qui nous permet aussi de tirer des leçons de l'histoire. Par exemple, ça, c'est Jean-Baptiste Fressoz qui nous le montre dans le livre. Jean-Baptiste Fressoz, c'est un historien des techniques, de la science, de l'environnement, qui a des positions assez radicales et qui sont d'ailleurs qui sont en contradiction avec d'autres propositions technicistes du livre. Par exemple, il considère, c'est son dernier livre qui le montre et la contribution dans notre ouvrage la résume, qu'il n'y a pas de transition énergétique. Que contrairement à ce qu'on dit, au fond, le capitalisme ne réussit aucune transition, il cumule, c'est un cumulocène. La preuve, c'est que, par exemple, les chemins de fer devraient s'appeler des chemins de bois parce qu'on n'a jamais autant consommé de bois qu'autant de la sidérurgie, précisément parce que non seulement il faut des traverses, mais il faut chauffer tout ça. Bon, voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que, et on le voit, il a des courbes qui sont tout à fait saisissantes, c'est que les énergies, elles s'accumulent et l'une ne remplace jamais l'autre. Voilà. Et d'ailleurs, si on y réfléchit un peu, on voit très bien que la ville est le lieu de l'accumulation. C'est jamais le lieu de la transition. Donc là, ça nous permet effectivement, je dirais, de doser notre espérance politique. C'est-à-dire, on ne va pas transformer une énergie en une autre, on ne va pas changer la ville construite, c'est celle que nous habitons, il faut en prendre soin, il faut la transformer, il faut l'adapter.
Philippe Sansonetti.
Oui, non, je vais insister sur l'importance de tout ce que vient de dire Patrick, bien entendu. Et d'ailleurs, dans le chapitre de Thomas Leroux, il y a quelque chose de très, très intéressant, mais qui revient un peu à la notion d'utopie quelque part. C'est-à-dire, c'est l'utopie scientifique du début du 19e siècle qui s'est basée beaucoup sur les progrès de la chimie. Lavoisier, enfin, il y a tout un prestige de personnes qui ont changé la science à cette époque-là. Et cette croyance dans la science, elle va au fond percoler dans la conception de la ville. C'est-à-dire qu'on considère qu'il faut absolument installer de l'industrie chimique au milieu des villes. Et quand Chaptal va convaincre Napoléon de continuer dans ce sens, donc il y a une espèce de... Quand l'idéologie scientiste s'empare de la conception de la ville du futur ou du futur de la ville, ça devient extrêmement dangereux. Et on a vu des hommes tout à fait éminents, des scientifiques de cette époque, défendre ça en allant jusqu'à dire que les bouffées d'acide sulfurique exhalées dans l'atmosphère urbaine étaient bonnes pour nettoyer les miasmes, purifier l'atmosphère, alors que les gens étaient intoxiqués. Donc c'est un des éléments, mais dans l'utopie, il y a de l'idéologie. Et donc il y a quelque chose qui sort du raisonnable, qui sort du rationnel.
Et on apprend aussi à la même période dans l'ouvrage que les années 1800 ont été un tournant. Qu'en 1802, il y a la création du premier conseil de salubrité à Paris. En 1810, la première loi contre la pollution. Donc on sent bien qu'il y a des mouvements contraires qui agitent déjà les sociétés et que tout ça se noue à l'endroit de la ville, entre l'industrialisation, les progrès, vous évoquez l'industrie chimique, et puis un impératif de régulation qui est déjà là. Comment est-ce que cette tension-là nous est parvenu, comment est-ce qu'on est aussi, comment cet héritage d'un rapport de force, est-ce que vous voyez une ligne de continuité dans ce rapport de force il y a deux siècles et celui qui se joue aujourd'hui?
Depuis la fin du XVIIIe siècle, époque napoléonienne, et jusqu'à ce XIXe siècle dont disait Walter Benjamin, Paris est la capitale, oui, assurément. Et pour les raisons, effectivement, que Philippe Sansonetti vient de dire, c'est-à-dire que cette relation, au fond, de triangulation entre la science, la politique et le pouvoir, elle a la ville pour terrain. Et ça depuis, effectivement, et avec des tensions et des contradictions et des groupes de pression effectivement des rapports de force. Bon, et ces rapports de force, ensuite, il faut les saisir dans leur échelle de mondialité. Voilà, ça c'est autre chose, c'est cette autre dimension sur laquelle effectivement il est important d'insister, parce que Michel Lussault, qui est un des historiens de l'étalement urbain, c'est-à-dire finalement de cette condition urbaine qui est nôtre et qui fait de la ville le principal vecteur de la mondialité, le dit bien, au fond, ce qui nous fait terrien, c'est aussi d'habiter en ville. Et donc, au-delà de ces expériences situées, qui sont des expériences politiques de l'État napoléonien, etc., aujourd'hui, c'est évidemment à l'échelle globale, métropolitaine, on y reviendra peut-être, qu'on doit raisonner. Et c'est là, effectivement, où on trouve tout l'intérêt de dialoguer avec les sciences chimiques, médicales, biologiques, puisque ni les fumées d'usines, ni les pollutions fluviales, ni évidemment les vecteurs infectieux ne connaissent de frontières.
Encore une question sur l'histoire avant de passer à une autre dimension forte du livre. Vous écrivez, Patrick Boucheron, que le passé nous lègue davantage une collection de dilemmes qu'un prêt-à-porter de certitudes politiques et de solutions technologiques. Néanmoins, à vous lire, moi, ce qui m'a frappé, c'est de voir à quel point la question de la régulation, que ce soit la jurisprudence, les règles qui déjà étaient instaurées, le commodo in commodo au Moyen-Âge, les instances de régulation, les conseils de salubrité, les lois. Bref, en quoi j'ai été frappée de voir que l'outil juridique, la norme, revient. Et donc, la question est à quel point aujourd'hui, pour penser la ville du futur, la question de l'outil juridique et de la régulation est centrale.
Ah oui, sans doute. Et c'est pour cela, effectivement, que la dimension juridique et économique est tout à fait présente dans cette réflexion collective. On voit bien, au fond, que ce qui est déterminant, c'est de savoir, dans la concurrence des normes, laquelle va finir par s'imposer de la propriété, de la nécessité, de l'assainissement du bien public. C'est là où cette question du commun, dans l'avenir commun durable, est véritablement centrale. C'est-à-dire comment produire du commun dans une situation qui est structurellement conflictuelle et dont, vous l'avez fort bien dit, d'une certaine manière, l'histoire nous permet au fond d'ouvrir dans le passé les devenirs possibles. Voilà. C'est-à-dire que, bien sûr qu'on ne va pas construire les utopies du passé, mais savoir comment dans le passé on s'imaginait l'avenir est une façon aussi de mieux comprendre au fond nos potentialités d'action. Voilà. Et ça, c'est important parce que, encore une fois, il y a différentes échelles. Voilà, je prenais la question du béton, il y a la question des nouveaux matériaux, on a des contributions effectivement à différentes échelles et à différents degrés, je dirais, de matérialité ou d'abstraction. On voit très bien que, là encore, pour des questions essentielles, qui sont celles que Philippe connaît infiniment mieux que moi, c'est-à-dire les questions effectivement de la santé publique. Au fond, c'est à toutes les échelles et de manière démocratique que l'on doit effectivement raisonner, parce que, par exemple, pour des, quand je disais les villes africaines ou les villes indiennes, on sont évidemment du point de vue climatique, mais aussi culturel, plus avancées que nous d'une certaine manière, résister à des formes, à des maladies infectieuses qu'elles connaissent et que nous allons connaître. C'est parfois c'est pas très compliqué, c'est de l'hygiène élémentaire, c'est éliminer les eaux stagnantes, etc. Et on a bien vu d'ailleurs pendant l'épidémie de Covid que c'était plutôt les villes du monde dit civilisé qui, au fond, avaient du mal à s'adapter à des règles d'hygiène élémentaires comme se laver les mains avant de manger, par exemple.
Et vous rappelez, Philippe Sansonetti, que évidemment la pandémie de Covid-19 a révélé, exacerbé la vulnérabilité des villes, la vulnérabilité en particulier des métropoles aux risques sanitaires. Et cette vulnérabilité, elle se niche dans des endroits invisibles, les infrastructures, la tuyauterie, les égouts, tout ce qui permet d'amener de l'eau potable aux citadins, tout ce qui permet d'évacuer les eaux usées. Et c'est un système, vous dites, particulièrement exposé au changement climatique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ?
Oui, c'est quelque chose qu'on matérialise pas nécessairement au jour le jour, parce que c'est devenu une évidence, et puis c'est souvent caché, donc on ne sait pas très bien ce qui se passe dans toutes ces tuyauteries. Oui, il est clair qu'il y a un risque. Ces grandes métropoles sont exposées au risque microbiologique. Alors c'est le risque à la fois épidémique, on pourra en reparler éventuellement, bien entendu, à l'occasion du Covid, mais il y a eu d'autres exemples. Et puis il y a des risques effectivement qui sont moins perçus, en tout cas par nous en général, par le public, peut-être plus par les techniciens, les spécialistes du urbanisme, qui est celui de l'eau, qui d'ailleurs devient un problème planétaire. Hein. Le risque hydrique, le risque de manque d'eau, le risque de contamination des eaux, tout ça, c'est vraiment des problèmes d'actualité qui s'aggravent, bien entendu, avec le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, il a tendance tout bêtement à favoriser la croissance des microbes, n'importe où qu'ils soient. Si on leur donne un petit peu plus de chaleur, généralement, ils poussent plus vite et donc deviennent plus nombreux dans les écosystèmes. Alors, bien entendu, il y a des strates, hein, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Tout ce qui concerne les excès, par exemple, de la pluviométrie, les orages, les inondations contribuent à disséminer ces écosystèmes, à les disperser. Et donc à accroître le risque infectieux. Alors, dans tout ce qui concerne les systèmes, beaucoup de l'eau qu'on consomme au jour le jour, c'est en fait de l'eau qui est recyclée, hein, qui part dans des stations d'épuration et qui est trop soigneusement décantée, filtrée, purifiée, chloré aussi, à des degrés divers selon les situations. Vous vous souvenez du goût de l'eau pendant la période de Covid, c'était pas tellement ragoûtant, si je puis dire. Et tous ces traitements, finalement, vont nécessiter d'être montés d'un cran, parce qu'effectivement, cette augmentation des pluviosités fait que ces stations peuvent très très rapidement être submergées et que la décontamination des eaux risque de devenir de plus en plus difficile, donc de plus en plus chère. Hein. On a vu tout ce que... Pendant la période on a beaucoup parlé des Jeux Olympiques, on a parlé souvent en riant, et je trouve avec un mauvais humour, de ces stations d'épuration pour que l'eau de la Seine devienne claire. Mais ces stations d'épuration, elles servent à épurer l'eau aussi qu'on boit tous les jours, et donc on ne peut pas plaisanter avec ça. Donc tout ça va nécessiter des planification, d'investissement dans le futur. On voit d'ailleurs la qualité de l'eau de la Seine à Paris est bien supérieure à la qualité de l'eau de la Tamise à Londres, où le système d'épuration des eaux date encore, dans certains quartiers, de l'époque victorienne. Donc on voit bien que les retards, et je ne vous dis pas ce que les rameurs des compétitions qui sont fameuses en Angleterre trouvent parfois dans l'eau de la Tamise. Donc il y a un vrai problème à la fois d'épuration, et puis il y a un problème, bien entendu, de redistribution des eaux, d'entretien des canalisations, et toutes ces bactéries, même si elles n'ont pas nécessairement pathogènes, elles ont tout un commun, un phénomène qui permet leur survie d'ailleurs, c'est de vivre, elles sont comme nous, elles vivent en société, et pour vivre en société dans ces tuyauteries, elles s'organisent dans ce qu'on appelle des biofilms, c'est-à-dire qu'elles sécrètent de l'acide nucléique, des protéines, des sucres. Et tout ça, ça fait une espèce de gangue protectrice. Elles se mettent dans un état de dormance. Et toutes ces structures, finalement, obstruent les canalisations et font que ces microbes sont résistants à la chloration, sont résistants à ce qu'on appelle le flushing, quand on envoie brutalement de l'eau sous haute pression pour essayer de nettoyer ces tuyaux. Et tout ça, avec le réchauffement climatique, est anticipé de se développer, de s'accroître. Donc il va y avoir une, une fragilisation, donc une vulnérabilité des systèmes de distribution d'eau qu'il faut prendre d'ores et déjà, bien entendu, en considération, parce qu'on voit bien que la température augmente plus qu'on ne l'anticipait et que les précipitations, les accidents de nature météorologique sont de plus en plus fréquents et de plus en plus violents et parfois inattendus. Donc oui, la sécurité sanitaire, d'ailleurs l'OMS considère que d'ici une dizaine d'années, 2030 ou un petit peu au-delà, la fréquence des infections qu'on appelle entériques, c'est-à-dire des maladies diarrhéiques, va augmenter au moins de 10% sur l'ensemble de la planète. Ça veut dire que ça augmentera plus dans certaines régions, sans doute moins dans d'autres, mais ça montre que la préoccupation médicale, elle est d'abord et avant tout à propos de la contamination des eaux et des aliments, ce qui est un élément structurant de la vie urbaine.
Il y a le risque infectieux, la contamination des eaux et des aliments, et puis il y a aussi, ce que vous expliquez dans votre contribution, un risque de corrosion chimique du béton, et donc, si j'ai bien compris, un matériau, le béton, qui est particulièrement sensible et vulnérable à ces transformations qui s'accélère sous l'effet du réchauffement climatique. Est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre ce risque-là, celui de la corrosion du béton? Est-ce que ça veut dire qu'à terme, on a une partie de la tuyauterie qui pourrait s'abîmer plus vite que prévu, se fissurer? Voilà, très concrètement, qu'est-ce que ce risque de corrosion signifie?
Quand on pense béton, on pense immédiatement à immeuble, à construction, mais on oublie parfois toutes ces, vous les voyez parfois dans la rue, ces énormes canalisations de béton qui servent à l'évacuation des eaux et qui sont effectivement très très fragiles, y compris donc à ces situations de réchauffement climatique par l'accentuation de la prolifération bactérienne. Oui, le béton en général est un matériau qui peut sembler extrêmement solide, mais qui a ses fragilités, qui a ses vulnérabilités, surtout s'il n'est pas de bonne qualité. Il y a plusieurs niveaux et qualités de béton, et malheureusement, dans beaucoup de villes nouvelles, en particulier dans les pays du Sud, ce n'est pas nécessairement le béton le plus sophistiqué qu'on utilise. Donc, en quoi le changement climatique peut impacter sur, disons, cette fragilité de base? Les excès thermiques contribue à un phénomène de dessiccation et de fissuration du béton, aggravé par les pluies violentes qui viennent s'insinuer dans ces fissures et permettre à du matériel biologique de s'installer, en particulier à certaines bactéries qui vont produire des acides qui vont, au fond, à partir de sel, de sulfate en particulier, donner lieu à une acidification. La meilleure protection du béton, du fait de sa composition, c'est son alcalinité. On peut parler de termes techniques, mais le pH du béton, c'est 11. Et des bactéries qui se développent dans ces conditions et qui fabriquent de l'acide, ça va amener expérimentalement, on le voit très bien, le pH à 3, c'est-à-dire un pH très acide. Donc il y a toute une vulnérabilité globale qui n'est pas là exposée pour terroriser les foules, mais pour quand même insister sur le fait que la ville du futur, ça paraît presque idiot de dire sous cette forme-là, mais ça nécessite une anticipation. Et que même des matériaux aussi solides que le béton sont des matériaux vulnérables et qu'une réflexion doit se faire sur sa qualité. On a vu des ponts s'effondrer en Italie. Ce n'est pas uniquement les ouvrages des tuyauteries, des égouts, ça peut être aussi des ouvrages d'art importants. Et donc, il y a quelque chose là qui est de l'ordre de l'anticipation et des coûts que ça va représenter.
Et d'ailleurs, on voit bien aujourd'hui dans les discussions, dans ce livre y compris, la réflexion et puis presque aujourd'hui le consensus, voire l'injonction qu'il y a à enlever du béton, à réduire le béton, à enlever du bitume dans les villes parce que le béton concentre tout un tas de faiblesses face au réchauffement climatique. Il amplifie la chaleur, les îlots de chaleur dans les villes par exemple. Ça, c'est une réflexion qu'on peut avoir à Paris par exemple, dans beaucoup de villes européennes, mais on apprend, et je reviens à la contribution que vous citiez de Armel Choplin sur le béton, que dans les villes en développement, les villes africaines notamment, le béton est désirable pour beaucoup de raisons, pour des raisons symboliques, parce qu'il est associé à la richesse, parce qu'il est associé à la modernité, parce qu'il est un signe extérieur de réussite, parce qu'il permet à très court terme eh bien, de ne plus patauger dans la boue, de sortir du bidonville. On apprend que le béton est un produit de première nécessité, considéré comme un produit de première nécessité dans certains endroits. Et je trouve que c'est intéressant, à partir de là, de s'interroger sur les différentes conceptions. Vous parliez de prendre la question urbaine dans sa globalité au niveau mondial. Les villes en construction, les vieilles villes n'ont pas les mêmes enjeux, n'ont pas les mêmes défis. Comment, à partir du béton, Patrick Boucheron, cette question, personnellement, quand vous avez réuni les contributions, vous a interrogé sur ces différences, des villes qui n'ont pas les mêmes défis, mais néanmoins un problème similaire sur ce matériau.
Oui, permettez-moi de prendre les choses au large. C'est vrai qu'un historien des sociétés anciennes, comme moi, a l'habitude, en somme, de nommer une civilisation depuis la matière dominante. Ne parle-t-on pas d'âge de pierre, de fer, voilà. Alain Corbin a écrit récemment un très beau livre qui s'appelle Fragilitas, qui montre que le Paris d'avant Haussmann est un Paris qui est, la ville de Paris, qui est marquée par l'âge du plâtre. Pendant peu de temps, une trentaine d'années, une génération, et on en a encore quelques exemples parisiens, pré-haussmanniens, encore une fois. Voilà, le plâtre est dominant non seulement dans la construction, mais je dirais dans l'imaginaire même du devenir historique. Aujourd'hui, on pourrait considérer, effectivement, donc on vivrait quoi ? L'âge du plastique. Nous savons fort bien qu'entre le moment où on prend conscience de la dangerosité ou de la vulnérabilité d'un matériau et le moment où effectivement il cesse, comme vous le dites justement, d'être désirable sur l'ensemble de la Terre, bien du temps peut passer et il faut effectivement considérer que le temps n'a pas la même texture, par exemple en Afrique et ici. Sauf que il nous a semblé intéressant, alors en effet, de parler du béton du point de vue du microbiologiste, du point de vue de l'ethnologue et de la géographe comme Armelle Choplin, mais aussi du point de vue, après tout, pourquoi pas, de l'architecte et de l'ingénieur. La question des matériaux, c'est quand même une question sérieuse. On peut se poser la question de savoir si, justement, en s'inspirant aussi des architectures traditionnelles, on le voit bien dans les pays post-industriels comme les nôtres, on ne peut pas, sinon rêver, du moins projeter un nouvel âge de la Terre. Les qualités thermiques et environnementales de l'architecture de Terre ne cessent d'être réévaluées et reformulées aujourd'hui par les architectes.
Qu'est-ce que vous entendez par l'âge de la Terre ?
C'est effectivement, on ne va pas vivre dans des maisons en pisé, mais il y a des matériaux composites, ça reste très cher, ça reste expérimental, qui utilisent la Terre comme matériau pour agglomérer, pour construire, et de manière parfois, pour construire à très, très grande échelle. Voilà. Donc il y a plein d'autres exemples, plus raisonnables et plus durables. Bon. Et donc c'est une manière aussi de prendre dans le passé et dans le monde des exemples de la diversité au fond des questions, des réponses que les hommes et les femmes en société peuvent apporter à des défis environnementaux.
Oui, d'ailleurs, on évoquait l'engouement pour le béton, l'industrie du béton, le tout béton, notamment en Afrique de l'Ouest. C'est les exemples que développe Armelle Choplin, mais elle explique aussi qu'il y a des alternatives qui s'expérimentent en Afrique, sur ces mêmes lieux, avec des... Donc le pisé par exemple, quand bien même elle serait expérimentale et minoritaire, Philippe Sansonetti, qu'est-ce que cela nous dit d'aller-retour, de modèle, pour le coup un modèle du Sud qui peut être intéressant pour le Nord vis-à-vis des vulnérabilités croissantes du béton dans les villes européennes ?
Oui, vulnérabilité du béton dans les villes européennes et vulnérabilité du béton dans les villes, disons, africaines ou en tout cas dans les villes du Sud. Ça marche dans les deux sens, en fait. Clairement, il y a une réflexion, mais je ne vais pas revenir dessus, Patrick vient de le dire très bien, sur, au fond, ce que pourrait être... sinon des matériaux vernaculaires, au moins des matériaux inspirés par les matériaux vernaculaires. Mais si vous dites aujourd'hui à un Africain qu'on va construire sa maison, ou qui va construire sa maison en matériaux vernaculaires, il vous rayonnez. Le rêve urbain en Afrique à l'heure actuelle, c'est même pas Paris ou Londres, c'est Dubaï. C'est-à-dire des grands immeubles, des gratte-ciels, et donc du béton, bien entendu, et du verre. Il s'avère que ce sont les deux matériaux qui, probablement, en termes de consommation, pour faire du béton, il faut monter à des températures de 1500 degrés pour préparer le matériau, et pour faire les armatures d'acier du béton, il faut à peu près les mêmes conditions. Donc la dette énergétique à payer pour la construction en béton, elle est énorme, et pour l'instant, les processus mis en place de recyclage sont loin d'être optimaux et surtout acceptés, parce que le business du béton en Afrique, c'est devenu le premier milliardaire africain, c'est un roi du béton. Donc il y a une espèce de courant de civilisation, d'idéologie qui fait que c'est extrêmement difficile de revenir en arrière, en tout cas dans l'état actuel des choses. Donc je pense que voilà, c'est ce genre d'ouvrage essaye d'insinuer, si je puis dire, d'insérer ces éléments de réflexion quand on voit ces villes, cette espèce de couloir urbain qui se développe en ce moment en Afrique, au sud de l'Afrique occidentale, quelque part entre Accra et Abidjan. La population africaine augmente, va être d'un milliard si elle ne l'est pas déjà. Donc c'est... On ne peut pas aller contre ces développements urbains, et les gens veulent vivre en ville parce que l'exode est encore plus rapide que dans nos régions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'améliorer cette situation ? C'est une vraie question, et quand on voit l'instabilité mondiale à l'heure actuelle, je ne pense pas que ça va être la priorité, alors qu'encore une fois, c'est le bien-être des gens, c'est la durabilité des conditions au-delà du rêve immédiat. La dégradation rapide de ce type d'habitat est inquiétante.
Pour remettre peut-être un tout petit peu d'optimisme, non, mais juste dire que ce qui traverse aussi l'ouvrage, c'est le souci des auteurs, des autrices, de ne pas perdre de vue la question de la justice spatiale, notamment dans les villes, la question du bien-être en ville, la question des solidarités en ville. Patrick Boucheron, dans votre conclusion, vous mettez en garde contre une tentation qui pourrait être celle des métropoles de penser leur avenir en lien les unes avec les autres, mais aussi parfois en dehors du reste des territoires. Vous parlez d'un archipel métropolitain par lequel se constituerait une sorte d'aristocratie mondiale, de métropole éclairée par la raison, résiliente, équitable, vertueuse, durable, qui serait la projection globale du gouvernement des honnêtes gens de François Guizot. Et vous dites, c'est une idée dont il faut se prémunir. Pourquoi ?
Bon, d'abord, c'est une idée consolante, et c'est une idée qui est pour l'instant notre filet de sécurité contre effectivement des politiques. Par exemple, aux États-Unis, en 2017, avec enfin 2016-2017, avec la première arrivée de Donald Trump, les États-Unis quittent l'accord de Paris, mais certaines villes, et les plus grandes et les plus riches, Los Angeles notamment, décident d'y rester. Donc là, on a un exemple tout à fait frappant d'une d'une raison mondiale qui est portée par les villes. Alors moi, ça m'intéresse en tant qu'historien des pouvoirs et historien des libertés urbaines, de l'Italie communale. Oui, c'est aussi un échelon de responsabilité, de rationalité, de pouvoir que les grandes villes. Et parfois, ça peut nous sauver. À ce moment-là, c'est créé justement dans l'effet de souffle de cette sidération qu'a été, encore une fois, la première administration Trump, une association des plus grandes villes, le C40, qui a été créé d'ailleurs par la maire de Paris, et puis maintenant c'est une présidence tournante, où les plus grandes villes du monde, et pas seulement au nord, beaucoup au sud, il y a Cotonou, s'organisent entre elles. Donc, je dis. D'abord dire que c'est bien.
Une forme de résistance.
Oui, ou de résilience. D'abord dire que c'est bien. Dire que c'est effectivement, d'une certaine manière, une réponse à la faillite des États. La prise en main, au fond, d'une responsabilité métropolitaine. Bon, voilà. Et puis, on pourrait parler, mais d'une certaine manière, c'est aussi une question sérieuse à Paris, parce que Paris une des villes qui, géographiquement, est la plus exposée aux effets du réchauffement climatique. Voilà. Donc, c'est sérieux quand même d'organiser, d'anticiper, il me semble que ça a été fait, le plan climat sur 50 ans. Mais pour ça, on ne le fait pas tout seul. Et donc, il faut s'organiser. Maintenant, la conclusion que je suggère, elle est, comme vous l'avez très bien dit et très bien décrit, simplement inspirée par cet effort de justice qui parcourt le livre et qui exige de cet avenir durable qu'il soit aussi commun, parce que cet archipel des bonnes volontés, d'une certaine manière, il peut être désirable si c'est l'armature qui, au fond, tient et retient et peut-être même relance l'ensemble, mais il serait égoïste si c'était simplement, des reconnaissances à distance, méprisant la justice territoriale. Je ne voudrais pas d'un monde où, qui est le monde, disons, de l'archipel métropolitain, où on se sentirait chez soi de Paris à Barcelone et de Barcelone à Dubaï et même à Cotonou, mais qu'entre, il y aurait des océans d'incompréhension et d'injustice. Donc ça, c'est effectivement, la globalité de ce que vous appelez fort justement la justice territoriale.
Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous les deux.
Merci à vous.
Nous avons un temps d'échange avec, avec la salle, avec le public, et je crois qu'il y a des micros qui peuvent circuler. En attendant qu'ils arrivent à la première question, j'en profite juste pour rappeler qu'il y a un point de vente du livre qui est organisé juste derrière, après la rencontre. Voilà.
Oui, bonjour, éditeur Gon, les colloques de Cerisy. Je viens de vivre pendant une heure et demie une plongée dans 40 ans de réflexion qui m'émeut beaucoup, et je vous remercie d'avoir repris ce thème de futur de la ville. Nous étions ici il y a 40 ans avec Jacques Le Goff, Marcel Roncaiolo, Olivier Auveyron, dans une démarche que j'avais lancée à la RATP sur crise de l'urbain, futur de la ville, qui a duré 5 ans, avec beaucoup des réunions chaque mois ici ou à l'école normale, au début avec Marcel Roncaiolo, deux colloques à Royaumont, deux colloques à Cerisy. Pour vous dire que l'objectif, c'était « Pensons la ville de demain avec les sciences sociales, toutes les sciences sociales ». Et ce qui est intéressant de voir 40 ans plus tard, il y a eu beaucoup d'autres choses, et je voulais rappeler quand même que dans le présent, on a beaucoup travaillé sur les villes, et qu'on y a travaillé pour des conditions et dans des contextes différents. Quand on travaillait sur la relation entre les villes et les transports, c'était pour penser les banlieues, c'était pour régler des problèmes de politique de la ville, c'était pour penser des politiques de réseau et des politiques de gare. J'ai fait tout le monde pour travailler sur les gares. Et ce qui est important, me semble-t-il, c'est qu'aujourd'hui, pour penser la ville du futur, on n'a pas besoin des mêmes sciences et des mêmes savoirs. On a besoin des sciences de la terre, et j'y insiste beaucoup, des sciences du vivant. Et on voit bien qu'il y a des travaux actuellement à l'école normale, par exemple, pour essayer de trouver les sciences du vivant qui nous aideraient à comprendre ce qui se passe. Et ce n'est pas la biologie telle qu'elle est, ce n'est pas la physique, c'est des choses qui... Et donc, déjà à ce moment-là, nous avions une pluridisciplinarité énorme. Mais il faut encore l'accroître. Et les sciences ne sont pas là pour nous permettre de comprendre ce qui se passe. Donc, voilà, je trouve que le singulier du futur de la ville, peut-on penser aujourd'hui la ville sans se positionner sur le contexte international, mondial, dans lequel on est? Et c'est facile de parler du réchauffement climatique, mais c'est une détérioration complète de la nature qui est sous nos yeux. Et justement, Jérôme Gaillardet, Sciences de la Terre, nous disait, étudiait le réchauffement climatique sur des milliards d'années. Donc c'est la géologie enfin, qui est aussi là. Donc voilà, je voulais vous remercier et vous dire quand même toute l'émotion que j'avais ressentie.
Merci.
Je peux dire un mot? En tout cas, merci madame, parce qu'effectivement, moi j'entends avec émotion et reconnaissance toute l'histoire que vous venez d'évoquer. Notamment, effectivement, se souvenir combien il était important pour Jacques Le Goff, qui a travaillé avec la RATP, effectivement. Et c'était tout à fait intéressant aussi de travailler non seulement avec des gens qui sont dépositaires d'un savoir de l'urbain, mais aussi d'une pratique de l'urbain. Voilà. Et voilà, d'autres, après lui, ont tenté de le faire. Voilà. Et dire aussi que ça s'articule avec ce que disait au tout début Philippe Sansonetti, se souvenir que Jacques Le Goff était un historien du XIIIe siècle, du beau Moyen-Âge, qui est le Moyen-Âge des cathédrales parce que c'est le Moyen-Âge des universités, et c'est le Moyen-Âge des universités parce que c'est le Moyen-Âge des villes. Donc, ultimement, il y a là quelque chose comme, malgré tout, un pari de la raison. Le Goff était rationaliste. Sauf que cette raison, vous avez raison de le dire, qu'elle s'élargit à d'autres disciplines et que l'interdisciplinarité d'il y a 40 ans paraît étriquée par rapport à celle de la nôtre. Vous citez Gaillardet, c'est vrai que cette question du sol est absolument fondamentale aujourd'hui. Cette question de la zone critique, elle est fondamentale, et que c'est l'ensemble des disciplines de la vie et de la société qui s'y trouvent convoquées.
Oui, merci madame, bien entendu. C'est bien de voir que ces réflexions ne datent pas d'hier, mais qu'en particulier les réflexions des décennies précédentes ont abouti quand même à des résultats. Quand on voit le chantier du Grand Paris, c'est quand même quelque chose qui est à la fois impressionnant mais émouvant en même temps, de se dire que le rationnel de tout ça, c'est quand même de faciliter la vie des personnes qui sont finalement, pour des raisons sociales, souvent rejetées à l'extérieur de la grande métropole. Donc tout ça résonne vraiment bien à mes oreilles. Il y a un aspect que vous mentionnez qui me paraît très important et qui est effectivement une discipline ou des disciplines qui ont un petit peu de mal à s'intégrer dans le réseau complexe de ce qu'on appelle les sciences dures, c'est les sciences humaines et sociales. On a d'ailleurs ce débat à l'Académie des sciences régulièrement sur il faut absolument qu'on intègre les sciences humaines au sein de nos disciplines. Ça inclut des disciplines fondamentales comme la physique, les mathématiques, la climatologie et la biologie, bien entendu. Donc ça, c'est probablement le futur de la ville en termes de réflexion. C'est une évidence que je suis en train de dire. Il est aussi dans les sciences humaines et sociales. Il est aussi, et je prends ma casquette médicale, là, il est aussi dans la médecine. On voit à l'heure actuelle la déshérence de la psychiatrie, par exemple. Et au fond... qu'est-ce que c'est qu'une ville, sinon de mettre des individus en grande proximité, en grande densité, dans des situations qui sont souvent des situations de stress. Et on voit bien l'impact qu'a eu la pandémie de Covid-19, l'impact des isolements sur les adolescents. Tout ça, c'est de la problématique urbaine et tout ça, ça nécessite une véritable réflexion. Je veux dire, sans vouloir être vulgaire, quand le Palais de la Découverte existait encore, il y avait l'école des rats et on voyait bien que plus on mettait de rats dans un endroit restreint, plus ils devenaient agressifs. Il y a quelque chose là qui est aux frontières des sciences humaines et sociales, de la médecine, des neurosciences qui fait partie, je pense, de la réflexion sur la ville du futur. On ne fera pas de ville du futur si on pense uniquement aux aspects de structure. Il faut penser aux gens qui vont vivre dans ces villes, qui vivent d'ores et déjà dans ces villes, et ce que représentent dans le monde actuel les pressions qu'ils subissent.
Merci, bonsoir. Je suis professeur en lycée en sciences et technologies industrielles et du développement durable, une filière qui est peut-être un peu méconnue qui s'appelle STI2D, et on parle d'architecture et construction et de technologie. Et merci de m'avoir fourni de quoi alimenter mes cours bientôt et d'avoir quelque part confirmé certains sujets qu'on aborde. Moi, la question que je vais vous poser, j'essaie d'être synthétique, mais j'ai beaucoup de choses à mettre dedans. C'est de quelle ville on parle, en fait. Paris est un cas particulier, pas unique. Je dis souvent à mes élèves que c'est la cinquième ville, dont la densité de population est la cinquième au monde. Il y a seulement Le Caire, Shanghai, Dhaka et puis une ville en Inde qui sont plus densément peuplées que Paris intramuros. Ce qui est très surprenant pour tout le monde, mais c'est le cas. Mais finalement, est-ce que cette ville, c'est seulement Paris intramuros ? Et vous partiez d'Haussmann, qu'on a absorbé à l'époque des villes voisines qui sont devenues des arrondissements. C'est en route, le Grand Paris, c'est en route, c'est finalement absorbé. Et puis même d'un point de vue de la résonance culturelle de Paris, vous avez quelqu'un qui s'appelle DJ Mehdi qui a une importance dans la musique mondiale, qui était du 92 et qui a rencontré des gens de Versailles qui s'appellent Cassius, voilà, et qui ont créé le mouvement musical mondial qui est actuel. Donc Paris n'est plus Paris. Contrairement à ce que vous avez pu dire à un moment, Paris n'a pas beaucoup changé, il a énormément changé. 80% de l'espace public a été dédié à la voiture, ce qui n'était pas le cas à l'époque d'Haussmann, même s'il y avait des calèches. On est dans un mouvement où depuis les années 70, il y a moitié moins de voitures dans Paris que dans les années 70. Donc finalement, il n'y a peut-être pas de transition, ou alors il y a une transition permanente qu'on appelle l'adaptation. Vous avez donné des exemples très concrets d'adaptation sur lesquels on peut se préparer, sanitaire, lié au réchauffement, etc. Mais est-ce que, alors j'en reviens à ma question, il y a eu au moment du Grand Paris une utopie d'un Grand Paris qui serait de Paris au Havre, dont l'axe serait la Seine, avec des projets très, très avancés par différents cabinets d'architectes qui existent toujours, qui sont des utopies, des pensées déjà passées de ce que pourrait devenir Paris. Est-ce qu'il n'y a pas à aller chercher là-dedans une nouvelle définition de la ville ? Parce que 7 personnes sur 10 qui vivent dans une ville ne vivent pas dans une ville comme Paris. Ils vivent aussi dans des villes moyennes comme Nantes, dont les travailleurs habitent jusqu'à La Roche-sur-Yon, dans des villes, grandes villes, des toutes petites villes. Qu'est-ce qu'on va appeler une ville, finalement ? Voilà.
J'espère qu'on a encore une heure devant nous.
En tout cas, et pour citer Marcel Roncaiolo, la ville, c'est une catégorie de densité et de diversité. Voilà. C'est ce qui la caractérise. Il n'y a pas de seuil démographique, il n'y a pas de définition fonctionnelle, il n'y a même pas de seuil politique. Mais c'est une catégorie, effectivement, de la densité, vous avez parfaitement raison de le dire, et de la diversité des occupations et des origines. Bon, à partir de ce moment-là, il n'y a pas que les grandes villes, évidemment, vous avez tout à fait raison, et merci de nous corriger. Je pense que dans le livre, on a, à différentes échelles, le souci de l'urbain, Maintenant, sur Paris et le Grand Paris, ce serait un peu trop long. Et, pour vous répondre, il est évident, tout ce que vous dites est très juste, il est évident que ce qui, là encore, motiverait au fond une réponse plus circonstanciée que celle que je pourrais donner, c'est la question de la justice territoriale et politique. Au fond, ce qui motive véritablement le projet du Grand Paris, c'est celui de donner un cadre politique à la diversité et à la densité telle qu'elle est aujourd'hui élargie aux arrondissements centraux. C'est ça la question. Et aujourd'hui, bien sûr qu'une politique de mobilité douce, agréable aux Parisiennes et aux Parisiens, personne n'en doute ici, mais insupportable à ceux qui sont encore obligés de traverser ou de contourner Paris, deviendra vite politiquement insoutenable. Voilà. Et tant qu'on n'a pas effectivement construit le cadre institutionnel qui fait, je dirais, des citoyennes et des citoyens du Grand Paris des partenaires à parts égales de ce développement, le choix ou l'arbitrage sera toujours en faveur des quartiers centraux, ce qui est insupportable du point de vue de l'inégalité et des injustices.
Je me permets peut-être juste de dire qu'on a aussi beaucoup axé la discussion sur les métropoles parce que moi, il m'est apparu qu'elles étaient particulièrement vulnérables et qu'on pouvait y décrire des changements emblématiques. Donc, c'est juste pour justifier. Mais qu'il y a dans l'ouvrage, notamment, la contribution de Frédéric Bourquin, qui parle de la mobilité du futur, une contribution très intéressante sur la voirie, sur l'avenir de la voirie, et qui cite à Nantes une expérimentation sur une chaussée démontable qu'il appelle la route Lego pour essayer de remettre en cause le tout voirie, le tout bitume, le tout route et que la route redevienne un service et non pas une fin en soi. Voilà, donc c'était pour... Et puis il y a aussi la contribution de Frédéric Keck, par exemple, dont on n'a pas parlé, et qui la sort des villes européennes, puisqu'on va voir, il compare Hong Kong, Istanbul et New York sur la question du risque épidémique, et comment ces villes sont devenues des villes sentinelles vis-à-vis du risque de grippe, notamment grippe aviaire. Voilà.
Bonsoir, merci. Moi j'ai une question, j'aimerais bien que vous évoquiez, vous avez parlé de propriété tout à l'heure. Moi j'ai vécu 50 ans en milieu rural quasiment, là ça fait 3 ans et demi que je suis sur Paris pour le travail et je vis dans 12 mètres carrés, je suis locataire, avant j'étais propriétaire d'une maison sur 1 hectare et en fait on voit que la question du logement c'est un vrai sujet en termes de justice territoriale. Et qu'est-ce qui est évoqué dans le livre ? Ça m'intéresse parce qu'il y a des projets, il y a des lois sur l'habitat participatif. Il y a des villes où il y a des immeubles qui peuvent être partagés tout ça sur la propriété. Mais qu'est-ce qui se passe ?
On en a beaucoup parlé pendant le symposium avec des exemples, de systèmes participatifs. D'ailleurs, Armel Choplin, qui habite à Genève, nous a parlé de ce type de modèle. C'est vrai que le livre ne couvre pas absolument tout. On a beaucoup insisté au fur et à mesure sur la nécessité de maintenir la dimension sociale et que tout le monde se sente bien dans les villes et de vivre dans un appartement de taille raisonnable fait partie de tout ça. Mais c'est vrai que c'est peut-être un des éléments manquant, qu'on aurait pu développer sous forme d'un vrai chapitre dédié. Il a eu peut-être le problème qui s'est retrouvé un petit peu disséminé sur l'ensemble des thématiques, mais vous avez absolument raison.
Oui, et y compris d'ailleurs, si on s'intéresse au changement climatique, qui reste quand même la dominante du livre, bien sûr que la mobilité c'est important, l'industrie aussi, mais c'est le logement qui est le principal enjeu et la rénovation thermique du logement, qui reste le principal levier en fait pour une transition ou en tout cas pour une adaptation. Donc vous avez parfaitement raison. C'est aussi des histoires architecturales. Encore une fois, pendant le Covid, on s'est rendu compte qu'une des manières les plus simples, là encore, sinon de se prémunir du moins de faire baisser le risque, c'était quand même d'aérer, mais pour aérer, il faut avoir des fenêtres, et la question des fenêtres dans le logement collectif, c'est une question compliquée. Vous vous souvenez qu'il y a eu un temps où, dans les gouvernements, il y avait un ministre de la ville ? Eh oui. Donc l'idée quand même que ce qui paraît le plus évident dans nos vies quotidiennes, dans nos existences, ministre de la ville, secrétaire d'État au logement, tout ça a disparu au profit d'une politique sociale un peu vague, alors qu'on comprend bien que la plupart des enjeux en fait, d'existence quotidienne et concrète s'y concentrent. Quand on demande aux Françaises et aux Français, quelle est leur première préoccupation ? Le logement vient en tête. Voilà. Toujours. Ce n'est pas l'immigration, ce n'est pas la sécurité, c'est le logement. Voilà. Et donc, il suit. Pardon ?
Et la santé.
Oui. Mais enfin, il était alors le logement et la santé. Mais le logement d'abord dans en déclaratif. Il suffit effectivement, il est frappant de comparer la dissymétrie entre cette réalité mesurée et en fait l'état du débat public. Sauf à considérer que la France, c'est aussi 1 200 000 associations, 5 millions de bénévoles, une société civile organisée, comme on l'a dit, et que les solidarités sur le logement, le militantisme sur le droit au logement, la fondation pour les mal logés, enfin tout ça, c'est le tissu vivant aussi de la société civile organisée. Même si ça n'a pas de traduction politique. Bon ben, après, il suffit de s'organiser pour que ça ait une traduction politique.
Bonsoir. Je voulais prolonger en vous demandant si vous aviez aussi réfléchi à la question des corps dans la ville, et pas d'un point de vue forcément de la santé et des microbes, etc., mais du déplacement et de la pause. Je cherche depuis tout à l'heure, je crois que c'est un urbaniste qui s'appelle Jean-Paul Alain qui dit une phrase, mais je suis pas sûre du nom, mais de la phrase oui, « pouvoir s'asseoir est l'expression d'une ville aimable ». Et je me demandais si dans cette réflexion, ce symposium, ce colloque, ce livre, il y avait quelque chose autour, dans la ville du futur, de l'assise, du banc, du transat, de je ne sais pas quoi encore, mais de la pause et de la vitesse. Du hamac, me dit.
Oui, il y a eu une présentation, mais elle n'est pas dans le livre parce que peut-être elle n'était pas d'un niveau suffisant sur cet aspect du plaisir de ce que c'est que de pouvoir se relaxer dans une ville. Mais bon, c'était pas un niveau, je dirais, de réflexion qui pour nous a justifié de l'introduire. Mais oui, vous avez raison, c'est sans doute, je veux dire, bon, si c'était à refaire, sans doute on boucherait un certain nombre de trous dans ce kaléidoscope qui n'apparaissent pas, mais bon, c'est vrai qu'on n'a pas élaboré sur ces aspects là
mais si je peux me permettre une réponse hors du livre, moi c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, cette question de l'hospitalité. En somme, et on le voit bien combien la ville, l'architecture urbaine, le mobilier urbain organise l'inhospitalité, en somme, et comment cette inhospitalité, elle est toujours mise en défaut par l'inventivité des habitantes et des habitants à déjouer les pièges toujours de l'urbanisme, et que finalement une ville, c'est le lieu où les habitants finissent toujours par rendre habitable une ville inhabitable. Il suffit de voir avec quelle inventivité, les ingénieurs dans le métro vont imaginer des sièges en bac pour que surtout jamais quelqu'un qui aurait besoin de se reposer ou de se s'allonger ne puisse pas le faire. Et donc ça, c'est quelque chose d'important. Je me permets juste de dire que, par ailleurs, moi, je m'occupe d'un lieu à Paris qui s'appelle le Théâtre de la Concorde et que l'année prochaine, on va faire tout un cycle qui s'appelle La ville sensible sur ces sujets-là. Et avec, ça rejoint d'ailleurs le Collège de France, avec un cabinet d'architecture qui est le cabinet d'architecture Marchetti Ferrier, Jacques Ferrier étant l'architecte de la dernière tranche de la rénovation du Collège de France.
Bonsoir. Je voulais savoir si le livre évoquait aussi un peu des pistes de solutions. Alors, je prends juste l'exemple, par exemple, sur l'eau et sur les canalisations dont vous avez parlé, le problème du béton et tout ça, sauf que, par exemple, les canalisations, c'est soit béton, soit PVC, soit fonte. Et aujourd'hui, enfin, ces matériaux-là, on les choisit l'un ou l'autre en fonction de leurs conditions de mise en conditions, leur prix, leur durabilité. Et donc, par exemple, dire que le béton, c'est peut-être pas au final une bonne, la meilleure alternative. Oui, mais alors quand la canalisation arrive à la station d'épuration sur des diamètres de plusieurs mètres, c'est quoi l'alternative? Et je voulais savoir si, sur ce sujet-là ou même sur d'autres sujets, le livre apportait un peu des pistes, des commencements de solutions. Parce que c'est vrai que la présentation, elle a été assez... Elle s'est terminée un peu sur de l'optimisme, mais elle a été assez dans le diagnostic, peut-être pas malade, il ne faut peut-être pas aller jusque-là, mais de la ville. Et voilà.
Vous avez parfaitement raison. Alors, d'abord, première réponse, oui, il y a un chapitre qui est le chapitre d'Yves Bréchet qui est totalement dédié aux matériaux. Matériaux du passé, matériaux du présent, matériaux du futur. Je ne peux pas vous le résumer, mais il aborde beaucoup de ces sujets-là. Ça va effectivement du verre au béton jusqu'à des matériaux de nouvelle génération. Donc ça, c'est effectivement dans le livre. Voilà, excusez-moi, j'ai oublié la fin de votre question.
C'était vraiment surtout si, en général, sur tous les sujets que le livre aborde, oui. La partie diagnostic et la partie début de solution.
Oui, je pense que c'était important. Alors peut-être c'était un biais, mais je veux dire, c'est difficile d'imaginer le futur de la ville ou la ville du futur sans faire un diagnostic des situations actuelles, des points de fragilité, des vulnérabilités, de façon à essayer d'y remédier dans la conception du futur de la ville ou de la ville du futur, si on part de zéro. Donc je pense que là, oui, c'est des éléments qui traversent le livre et qui sont des éléments de diagnostic. Et effectivement, à trop faire du diagnostic, plus on fait de diagnostic, plus on détecte de maladies, hein, c'est clair. Et c'est peut-être un peu un des biais du livre. Mais il n'est pas si pessimiste que ça quand on le relit.
Bonsoir, merci beaucoup pour ces explications fort intéressantes. Ma question, c'est l'emprise de la ville ou de l'habitat sur les terres, que je dirais agricoles, mais pas forcément, sur les terres. Est-ce que, à travers l'histoire, vous avez eu déjà des refus, des regroupements sociaux, donc des paysans par exemple, qui, sentant la ville, la construction s'installer, s'organisaient pour l'empêcher? Donc autour de chez moi, en Touraine, alors nous avons bien sûr l'État qui a défini quels étaient les endroits où on pouvait construire et pas construire, mais la définition locale passe quand même par les interlocuteurs intéressés. Et autour de chez moi, ils se sont tous organisés, il y a 5 paysans qui cultivent à peu près 1000 hectares. Il n'est pas question que l'État vienne mettre son nez pour que ça devienne constructible. Comme moi, j'habite au milieu avec une maison très ancienne, je suis ravie. J'ai le droit à avoir toutes les bestioles sauvages qui sont là-dedans, et je ne me plains pas. Mais ceux qui voudraient bien étendre la ville, par exemple, parce qu'ils auraient des électeurs, un petit peu plus d'électeurs. Voilà, donc ma question, c'est est-ce que à travers l'histoire, vous avez déjà repéré des phénomènes de cette nature ?
Alors, comme le rappelait justement Philippe Sansonetti, ce qui domine le monde actuellement, ça reste de toute façon le mouvement d'urbanisation qui est très très loin d'être achevé, qui est très très loin d'être contrarié, et la ville demeure désirable, l'horizon urbain est un devenir désirable pour l'humanité. Nous, on est, dans ce pays, on est un pays anciennement développé, anciennement urbanisé et qui a donc déjà eu le temps de d'imaginer des contre-conduites ou des contre-coups à cet effort ou essor de la ville. Cette idée que vous donnez, qui est au fond de la d'une urbanisation prédatrice qui mangerait l'espace et qui dévorerait la société d'alentour, elle est ancienne déjà. Effectivement, la ville cannibale, la ville qui finalement finit par dominer le paysage depuis l'Italie du XIIIe siècle jusqu'à la pensée des monstres urbains. Vous voyez par exemple ce que la philosophie des Lumières dit de Naples comme capitale du malgoverno. Eh bien, tout cela, effectivement, c'est une rhétorique ancienne. Nous la retrouvons aujourd'hui. Moi, je m'intéresse à la question des libertés urbaines, c'est-à-dire la question de la ville comme lieu d'émancipation. Aujourd'hui, effectivement, il y a une pensée politique minoritaire mais radicale qui consiste à penser que, à croire qu'on va réinventer sa vie ailleurs qu'en ville. Et le vieux slogan, disons, des politiques de la ville des années 80, changer la ville pour changer la vie, eh bien, il est aujourd'hui, du point de vue des radicalités politiques, plutôt contrarié par, un autre idéal zadiste qui consisterait à aller chercher ailleurs, à faire commune ailleurs que dans les vieilles communes urbaines. Bon. Donc oui, ça existe. Moi, la question que je me pose, et on pourrait même faire l'histoire des urbanicides, d'une haine de la ville qui, avec passage à l'acte, de destruction, toute la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on déteste quand on déteste la ville. La haine de la ville, qu'est-ce qu'elle vise vraiment ? Voilà. Et si on revient à cette définition géographique de la ville par sa densité et par sa diversité, alors effectivement, la haine de la ville est aussi une haine de la diversité. Et la recherche, au fond, hors de la ville, de paradis retranchés, est un idéal de pureté et d'entre-soi politique qui a ses charmes, mais qui a aussi ses dangers.
Une dernière question.
Voilà, quelle responsabilité. Non, c'est pas. Je vais vous demander si vous aviez envisagé des limites à la ville. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut considérer, ça rejoint un petit peu, est-ce qu'on peut considérer qu'il peut y avoir des limites ? Je vis dans la ville et j'adore vivre en ville. J'ai aucun problème avec ce sujet, mais j'aime aussi beaucoup la campagne. Et si la ville s'étend, je vais devoir aller de plus en plus loin pour avoir de l'espace sauvage, de l'espace de campagne. Voilà ce que j'ai... Non, pas en haut de l'Himalaya, mais voilà ce que... Voilà. Et est-ce que la démographie a été... Je sais que souvent, on n'ose pas aborder ce problème, mais est-ce que l'expansion démographique a été aussi envisagée dans votre travail ?
Non, on n'est pas rentré dans cet aspect-là des choses. On a simplement pris les chiffres qui montrent l'augmentation depuis un bon moment maintenant, mais qui n'est pas prête de s'arrêter de l'urbanisation. Je pense, à l'heure actuelle, ça doit être 56% de la population mondiale est urbanisée. Donc on a dit tout à l'heure que ce serait probablement de l'ordre de 70 ou 75% en 2050. On voit à quel point, effectivement, l'urbanisation est galopante et au fond, quasiment impossible à changer, parce qu'au fur et à mesure que au fond, les campagnes se dépeuplent, la vie à la campagne est de moins en moins attractive, et on le voit peut-être encore plus au-delà de nos frontières que chez nous. Donc il y a effectivement une espèce de phénomène d'aspiration qui ne peut que se conclure par un phénomène de vide à l'extérieur des villes. C'est très angoissant, mais non. On n'est pas rentré. J'avais prévu, on en a discuté, même je pense avec Patrick, j'aurais bien fait la prochaine fois, mais on va aborder un autre sujet en réalité. On va probablement travailler sur l'hôpital du futur. On voulait d'ailleurs le mettre dans le livre, mais on n'a pas été trop satisfait. Donc c'est la campagne du futur, effectivement. Qu'est-ce que dans cette ambiance d'aspiration des peuples vers les villes va être la campagne du futur? Je vous renvoie la question parce que j'ai pas vraiment d'idée. Pardon? Alors les villes-campagnes peut-être.
C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la seconde nature. On l'évoque aussi à partir des travaux de Stéphane Van Damme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il n'y a plus lieu de distinguer la culture de la nature, y compris dans le gradient urbain-rural. La seconde nature, on l'a sous les yeux. La ville est un haut lieu de la biodiversité, et parfois même un réservoir de biodiversité, alors que une campagne industrielle est au contraire donc gagnée par la monoculture, assèche cette biodiversité. Donc oui, vous avez tout à fait raison, et c'est normal qu'on se pose la question ici. Donc je rappelle quand même que l'Angleterre industrielle, en fait, dès la seconde moitié du 20, enfin, en fait, au tournant du 19e siècle, les urbains dépassent les ruraux, alors qu'en France, c'est 100 ans plus tard. Il y a quand même d'où d'ailleurs notre nostalgie, la fin des paysans, c'est les années 50 en fait, 1950.
Et puis il y a un chapitre aussi sur la biodiversité dans la ville qui ressemblera jamais à la campagne, mais une réflexion intéressante sur comment on remet de la nature et quelle nature, est-ce qu'elle ressemble à ce qu'on peut imaginer de la nature sauvage, ou est-ce que c'est une nature très sélectionnée ou sélective? Je m'arrête là parce que ce sont presque des débats philosophiques, mais c'était juste pour signaler qu'il y a une contribution.
Oui, c'est le chapitre de Philippe Clergeot qui est vraiment très intéressant.
Eh bien, merci beaucoup.